Voilà, donc nous continuons ce matin, après ce beau moment de louange, de reconnaissance. On a la série sur donc la première épître de Corinthiens, et puis on arrive donc dans ces chapitres 12, 13 et 14. C'est un gros programme, 12, 13, 14. Puis je vais même revenir sur le chapitre 11. Alors ça veut dire qu'on ne va pas arriver à tout faire, forcément. Mais on reviendra, de toute façon, il y a un deuxième tour mardi soir, puisqu'on va rebondir sur ces sujets-là. Et je crois que le Seigneur veut nous inviter aussi, par le Saint-Esprit, à revenir sur ces chapitres. Chapitre 13, l'amour, c'est vrai qu'on, je réalisais, on le vit peu, aïe. On le lit peut-être peu dans l'Église, parce que c'est quelque chose, un chapitre tellement beau et que tout le monde connaît, que donc ce matin, on va prendre du temps aussi pour le lire. Mais jusqu'à présent, donc, on avait pas mal abordé de sujets pratiques qui touchent donc, les relations dans l'Église, donc, qui peuvent influencer les divisions ou le désordre, les relations ou leurs absences qui peuvent donc, influencer les relations dans le couple, débauche ou pas, on avait évoqué ça. On avait vu aussi les limites de notre liberté sur certains sujets, lorsqu'on a parlé des viandes sacrifiées aux idoles, cette liberté vis-à-vis de nous, entre frères et sœurs. Et régulièrement dans cette épître, donc on l'a vu, Paul cherche, comme dans d'autres épîtres d'ailleurs, à éveiller l'homme spirituel que nous sommes. Donc pour que nous vivions plus selon des principes humains, mais des principes divins. Ainsi, il écrit dans le chapitre 2, verset 12, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Il est, bon, ça va venir, mais je vais le lire. Hein. « Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. » Et il nous prévient que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Puis par deux fois, donc chapitre 3, verset 16 et 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que vous ou vos corps sont le temple du Saint-Esprit ?» Paul veut nous aider à laisser s'opérer notre transformation spirituelle voulue par le Saint-Esprit. Donc pour nous détacher de toute logique de ce monde. Ainsi, il écrit au chapitre 10, verset 24, aussi, que personne ne cherche son propre intérêt, ou au verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Plusieurs fois, on l'a vu, Paul dénonce l'attachement des Corinthiens à l'idolâtrie ambiante. Et cette idolâtrie leur ôtait tout discernement spirituel. Nous l'avons vu, que ce soit donc dans les querelles, dans la débauche, le mariage ou encore la liberté chrétienne, les Corinthiens étaient un peu paumés et leur discernement était altéré à tel point que Paul doit recadrer toutes ces choses. Mais à la différence un peu des Corinthiens qui vivaient donc dans une société consciente du monde spirituel, nous on vit plutôt dans une société qui a réussi à s'organiser pour vivre dans le déni de cette réalité spirituelle, en donnant la primauté à l'émotionnel et au matériel. Mais il n'en demeure pas moins que les plaisirs ou la richesse peuvent être de l'idolâtrie. Et que notre discernement spirituel peut être tout aussi bien altéré par leurs influences. Le monde spirituel est bel et bien une réalité, quoi qu'en disent quelques intellectuels de notre temps. Et Paul et la parole de Dieu rappellent cette réalité. Et justement, le chapitre 12 de cette épître commence justement par, verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, littéralement, le terme grec à la place de dons spirituels, c'est pour ce qui concerne les choses de l'esprit. Et la version second 21 traduit par « en ce qui concerne les réalités spirituelles ». J'aime bien cette traduction. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Jusqu'à présent, comme nous l'avons lu au chapitre 3, Paul n'a pas pu parler aux Corinthiens des choses spirituelles. Il s'est contenté de leur donner du lait à la place de nourriture solide à cause de leur jalousie et de leurs disputes. Et donc là, on rentre de plein pied dans ces chapitres-là, dans cette réalité spirituelle. C'est pour ça qu'avant, je voudrais quand même revenir brièvement sur le chapitre précédent, donc le chapitre 11, car Paul, là, dans ce chapitre, fait le lien entre les réalités spirituelles donc, que Paul veut révéler et les qualités, et les réalités matérielles qu'il a dénoncées avant, enfin, dénoncées plutôt ses excès. Et dans ce chapitre 11, il y a deux choses qui sont importantes que Paul rappelle, et je pense vraiment qu'elles ne sont pas là par hasard. La première, c'est le schéma d'autorité qui est désormais en vigueur dans le monde spirituel. C'est-à-dire au verset 3, le chapitre 11 dit « Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et la seconde, ben, c'est la scène. C'est ce que nous avons partagé à l'instant. C'est ce moyen que Jésus a laissé comme vraiment particulier pour annoncer la mort du Seigneur et par conséquent aussi sa victoire dans le monde spirituel. Alors, on n'est pas forcément conscient des enjeux d'autorité qu'il y a dans le monde spirituel. Mais il faut bien se rendre compte que le diable, avec ses anges, ne supporte pas que là, tous ensemble, on se souvienne de la mort du Seigneur sur la croix. Il ne supporte pas que les rachetés de Christ soient unis, là, le premier jour de la semaine, pour l'adorer. Parce que c'est ce premier jour-là que lui a été vaincu. La louange que nous avons fait monter ce matin, tout comme celle de nos frères et sœurs en Christ partout sur la terre, a participé à la glorification de Dieu, car là, on a célébré la victoire de son Fils sur le diable. Pierre, donc, dans sa première épître, nous révèle que les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Paul dit aussi aux Éphésiens, au chapitre 3, que les autorités spirituelles connaissent désormais par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors on n'est pas toujours conscient que les anges et le monde spirituel nous regardent et que nous sommes les témoins vivants de l'œuvre de Christ et de la sagesse immense de Dieu. Comment peuvent-ils comprendre que des créatures telles que nous, vouées au péché, puissent avoir part au Saint-Esprit? Et non seulement ça, en plus que le Saint-Esprit participe à notre transformation jusqu'à nous amener à la perfection. Ça, c'est totalement inconcevable pour eux. Eux ne peuvent pas avoir accès au salut par le sang de Christ. Alors que beaucoup de ces anges-là sont en plus là pour nous venir en aide et nous protéger. Si pour nous, humains, le schéma d'autorité, Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ, ça nous dépasse, parce que humainement, ça nous heurte, ça nous gêne un peu aux entournures. Eh bien, pour les anges, cela leur parle vraiment. Et cela revêt une importance cruciale pour eux. Ils savent par la parole que nous jugerons les anges. Et ils observent particulièrement la façon dont nous concevons ce schéma d'autorité. Et Paul revient d'ailleurs sur ce point quand il écrit au verset 10 de ce chapitre 11 « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Alors, il n'est pas là question de culture ou d'autres raisons matérielles, mais la seule raison, elle est spirituelle. À cause des anges, à cause du combat spirituel dont ils sont les acteurs, le schéma d'autorité institué par Dieu doit être visible et clair dans l'Église. Lorsque nous nous engageons dans un combat spirituel, nous devons bien réaliser que les anges sont les principaux acteurs. On sollicite les armées célestes et notre respect pratique de ce schéma d'autorité ne fait qu'amplifier ce message que nous proclamons ici. Christ est le Seigneur, il n'y en a point d'autre. Et au-dessus de Christ, il y a Dieu qui est dans la toute-puissance. Le monde matériel n'est pas leur monde. Néanmoins, il porte un regard tout particulier vers ceux qui font le lien entre la réalité matérielle et la leur qui est spirituelle. C'est-à-dire nous, en tant que nous-mêmes, en tant qu'Église, et femmes et hommes, plus que vainqueurs en Christ. Car en esprit, nous aussi, on a ce libre accès maintenant auprès de Dieu. Tout comme les anges, on a ce libre accès en esprit auprès de Dieu. Donc, conscient de ces réalités spirituelles et de notre rôle d'adorateur, rappelez-vous encore les paroles de Jésus, hein, qui précisent que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais des adorateurs en esprit. Alors, on va continuer à avancer dans notre étude qui concerne vraiment ce ministère particulier du Saint-Esprit dans l'Église. Et ce que Paul aborde maintenant dans cette partie de son épître n'est plus du lait, mais de la nourriture solide, destinée non plus aux enfants, comme il le dit au chapitre 3, mais aux adultes. Ces adultes que nous sommes appelés à être spirituellement parlant. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam était adulte. Adam, pour vivre dans la présence de Dieu, n'a pas été créé bébé ou enfant, mais un homme accompli et parfait à l'image de Dieu. Rappelez-vous Christ, il est remonté dans la présence de Dieu en tant qu'adulte, en pleine force de l'âge. C'est lui qui a pris la décision de mourir sur la croix pour en sauver plusieurs. Il a même pris autorité sur la mort en décidant lui-même du moment de sa mort sans attendre une agonie naturelle. Pour vivre la présence de Dieu par le Saint-Esprit au sein de l'Église, il nous faut devenir adultes spirituellement. L'adulte, c'est celui qui prend des décisions et qui a une autorité propre sur sa vie. Éphésiens 4, verset 14 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Et finalement, comment faire pour avoir cette propre autorité sur notre vie, malgré les courants contraires et les vagues qui viennent nous submerger? Moi, il me semble qu'on a besoin de deux choses. Une barque avec une voile et un gouvernail, et puis il nous faut du vent. Rebecca a parlé d'un moyen de locomotion du train. Ben, je vais changer, je vais prendre l'image de la barque ou du voilier. Moi, il me semble que la barque avec une voile, c'est une belle image de l'Église. Et le vent, c'est cette image du souffle de Dieu. Et puis, il y a aussi des fois les flots démontés qui sont une image aussi de notre vie, dans notre société, souvent dans laquelle il y a des courants contraires et des vagues qui ont tendance à venir nous submerger. Alors, c'est un peu cette image que nous pouvons discerner en filigrane dans ce texte de Paul. Et avec Romains 12 et Éphésiens 4, le passage dont nous allons lire dans ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens précise vraiment la révélation que l'apôtre Paul a eue du fonctionnement de l'Église en tant que corps. Alors verset 2, « Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. » Donc ça, cette idée de mer, de courant là, qui nous entraîne. Et ça, c'était avant. On se laissait dériver au gré des modes et ou passionné par des futilités. Et verset 3, « C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Pour entrer dans l'Église, la condition, c'est d'avoir confessé que Jésus est le Seigneur dans nos vies. Les baptêmes, lors du baptême, et on l'a vécu récemment, c'est ce point fort qu'on aime entendre et qu'on entend de la part des baptisés. Je prends maintenant la décision que Christ vient régner dans ma vie. C'est accepter que Christ prenne les rênes de notre vie. C'est aussi accepter le schéma d'autorité qu'il a instauré dans le monde spirituel. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui nous en convainc, progressivement, en renouvelant notre intelligence pour qu'elle soit toujours plus sensible à son influence. Verset 4, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc une fois dans l'église ou dans la barque, il faut être conscient que nous ne sommes pas tout seuls et que nous avons évidemment notre rôle à jouer pour que le Saint-Esprit nous mette en marche. Dans l'église, chacun est sensible à la volonté du Saint-Esprit. Chacun est à la bonne place, proche de ce que le Saint-Esprit a choisi de mettre à nos côtés. Juste, tu peux mettre le voilier. Voilà un exemple d'un voilier avec tous les organes qui lui permettent de tenir la mer et par tous les temps. Et regardez, il y a plein d'accessoires, et il en manque là certainement, qui sont indispensables à la navigation. Il y a même l'écoute. Il y a même un point d'écoute qui permet de sentir, d'écouter la pression du vent, le vent dans la voile. Alors moi, je ne sais pas bien où vous voyez, dans quel équipement vous pourrez vous identifier sur ce voilier. Peut-être tout en haut, là, du grand mât, pour avoir la vision lointaine de Dieu. Peut-être dans la voile, pour ressentir le souffle de l'Esprit de Dieu. Ou encore, peut-être en sécurité dans le cockpit. Ou il y en a peut-être qui sont en ce moment peut-être complètement sous l'eau. À l'image de la quille. Et je ne sais pas si ça vient de là, l'expression « c'est la quille ». Mais ce que j'aime dans la quille, c'est qu'elle est primordiale pour stabiliser et ralentir le bateau. Car elle joue le rôle donc d'une dérive. Et puis c'est elle qui stabilise par rapport aux vagues, elle stabilise le bateau et même elle freine, elle ralentit le bateau. C'est elle donc qui donne l'autorité par rapport au courant contraire lorsqu'il y a la tempête. Et donc j'aime voir aussi dans cette quille l'image de Christ qui était là dans le calme au fond de la barque lorsque les disciples étaient en totale panique lors de la tempête. Christ qui a accepté d'être 3 jours donc dans le tombeau privé de la présence de Dieu. Il a pris ma place, il a accepté de se laisser submerger pour me relever et me mettre en sécurité. Et là, vous voyez pas, quand vous voyez ce bateau, c'est peut-être qu'une image, mais on peut toucher la perfection aussi de l'Église. Chapitre 12, verset 12, pardon, on va continuer. La lecture, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc à l'instant où quelqu'un place sa confiance en Jésus, il est immergé dans l'esprit et identifié au corps de Christ. Et il vient apporter un plus dans le fonctionnement du bateau. Nous composons ainsi chacun un équipement de cette barque, mis à la bonne place et au bon endroit, au bon moment, comme le Saint-Esprit le veut. Et nous avançons ensemble pour former une arche qui donne du relief à ce monde qui est plat. Et surtout, c'est une arche qui récupère toutes les personnes qui sont en train de se noyer. Alors on prendra un peu plus de temps mardi soir pour voir en détail les différents dons spirituels et les ministères nécessaires à l'édification et à la cohésion de cette barque. Mais en attendant, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en contemplant cette barque. Et j'ai compris ce que le Seigneur ressent lorsque Paul dit en Éphésiens 5, verset 27, il a voulu se présenter, je ne sais pas si je l'ai, ouais. Il a voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. On a été digne de partager la scène. On est digne de se tenir devant Dieu irréprochable en église parce que le Saint-Esprit est là qui nous purifie. Grâce à la présence et au travail du Saint-Esprit, grâce à nos complémentarités, l'église ou la barque là est en train de se parfaire. Il nous en manque encore. Et tout comme nos anges, elle peut se tenir devant Dieu. Et le meilleur moyen pour qu'elle se perfectionne, c'est quoi à votre avis ? C'est l'amour. Et on rentre finalement de plein pied là dans ce fabuleux chapitre 13 de 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour avec un grand A, comme voie par excellence qui nous permet de voir l'Église comme Jésus lui-même la voit. Donc, 1 Corinthiens 13, on va lire les 8 premiers versets. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, et il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Et ce verset 8, surtout, gardez-le. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour, est-ce qu'on peut tous le dire ensemble ? L'amour ne meurt jamais. Après la lecture de ce beau passage, on peut vraiment se sentir totalement dépassé, car il révèle les échecs de nos vies. Sans amour, la connaissance, la foi, la générosité, le zèle qu'on a pour Dieu ne servent à rien. Mais soyons en paix. L'amour, c'est encore le fruit de l'esprit par excellence. L'amour, c'est pour ça qu'il ne meurt jamais. On l'a rappelé, on est cette habitation du Saint-Esprit. L'amour ne peut pas mourir. D'où cette cohésion dans le message, finalement aussi de vivre par l'Esprit. Arrêtons de vouloir vivre et d'aimer par nos propres forces. On ne peut pas continuer à vivre comme si le Saint-Esprit était à côté de nous. Nous sommes son temple, le Saint-Esprit est en nous. Et son fruit, l'amour, y est abondant. On le croit, ça ? Le fruit, l'amour, y est abondant. Laissons-nous contaminer dans le bon sens du terme par cette abondance, pour que l'amour ne soit pas une simple déclaration, même enflammée. Mais celui qui aime, il est acteur, il n'est pas spectateur. Jésus nous a montré la voie en disant, il a dit ses paroles. Il ne les a pas seulement dit, il les a mis en pratique. Quand il a dit en Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais aimer, c'est donner jusqu'à sa vie, sans calcul, sans revendication d'un gain en retour. Aimer, c'est donner simplement pour le plaisir, le bien-être, le bonheur de l'autre et pour la joie de donner. De définition, moi, je n'en connais pas d'autre. D'exemple, je n'en veux qu'un, c'est celui de Jésus, le roi qui se fait serviteur et qui donne sa vie pour moi sur la croix. Aimer, c'est carrément une folie. Mais alors, qu'attendons-nous pour être tous fous d'amour ? Et il y a un endroit, vous savez, où la folie, cette folie-là, elle est de rigueur. C'est dans l'Église. Alors si vous rêvez d'un monde où l'amour est sans limite et la liberté est totale, ben, réveillez-vous là, hein. Vous y êtes. Hein. Bienvenue dans l'Église et vivez pratiquement cette Église. Et je conclurai donc par la lecture des versets d'Éphésiens 4 que je vais orienter dans le sens de l'image de la barque. Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que la barque tout entière, bien coordonnée et solidement unie grâce au cordage dont elle est munie, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie elle-même dans l'amour. Oui, notre Dieu, nous voulons vraiment te rendre grâce parce que ton plan est parfait. Tu vois nos duretés de cœur, tu vois notre culture, nos passés, Seigneur, et les difficultés qu'on a des fois à aimer, mais toi, tu veux révolutionner ça, tu veux ressusciter ce sentiment d'amour unique parce qu'il vient du Saint-Esprit que tu as placé en nous. Ah oui, notre Dieu, nous voulons laisser encore notre intelligence être renouvelée, Seigneur, pour désapprendre tout ce que on a mal appris, pour simplement nous laisser rééduquer par le Saint-Esprit qui veut rendre abondant ce fruit que nous avons, que tu nous as donné. Oui, merci Seigneur pour l'Église, merci parce que c'est vrai qu'elle est belle, merci parce que tu nous fais rentrer là de plein pied dans des merveilles, dans des mystères tellement grands que même les anges qui sont pourtant devant toi, notre Dieu, tous les jours, ne comprennent pas, Seigneur. Et tu nous mets là au bénéfice de ce message parfait. Ah oui, notre Dieu, nous voulons réaliser maintenant toute cette réalité spirituelle dans nos vies, réaliser cette réalité spirituelle dans nos relations, réaliser cette réalité spirituelle dans les dons que tu as donnés à chacun de nous, Seigneur. Que ces dons maintenant se révèlent, Seigneur. Que chacun trouve l'importance d'être à la place que toi tu as choisie, Seigneur. Et même que nous soyons souples, Seigneur, parce que tu peux nous changer de place comme le Saint-Esprit le veut. Laisse-nous, transforme pour que nous soyons, c'est vrai, cette argile malléable, Seigneur. Oui, nous voulons nous attendre à toi. Veuille bénir encore notre Église, prendre soin de chacun de nous, de ceux peut-être qui sont un peu sous l'eau en ce moment, Seigneur. On te les apporte, veuille les bénir, tu les connais. On veut te prier pour ceux qui ne nous ont pas rejoint encore cette barque, Seigneur, il y en a plein. Mais on veut simplement encore te prier pour eux, Seigneur, que nous croisions leur route, que nous ayons les bras assez forts et puissants pour les embarquer, Seigneur. Et surtout que toi, Seigneur, tu œuvres encore dans leur cœur, que tu les convaincs de pécher. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut seulement le faire. Merci, Seigneur, de ta présence au milieu de nous encore et de ces moments bénis que tu nous as donné encore de partager ce matin. Sois loué. Amen.
Un grand merci pour ce qui a été partagé ce matin. Que Dieu nous accompagne aussi dans la mise en pratique. Et pour la mise en pratique, ben voilà, je vous laisse voir les annonces de la semaine qui vont tout bientôt arriver. Mardi, on a donc notre étude biblique, et donc il sera la suite du message de ce matin, ou un approfondissement, donc 1 Corinthiens 12, 13. Samedi, on accueille donc une équipe de jeunesse en mission de Lyon. La chorale va manger avec eux à midi, et puis l'après-midi, c'est prévu donc à 15h au bord du lac de Divonne, spectacle de rue. La chorale va chanter aussi, donc en bref, un témoignage clair et précis de ce que nous croyons, de ce que nous vivons, de ce que nous voulons partager aussi aux autres. Alors prions pour cela parce qu'on a fait une demande pour que cette manifestation soit autorisée par la mairie de Divonne. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais voilà, prions pour qu'il y ait une réponse favorable. Prions aussi pour que ce soit un moment béni, un moment où l'Esprit de Dieu peut se manifester et se répandre aussi pour les autres. Et donc, au culte de dimanche, donc ce sera l'équipe de GEM qui va partager le message. C'est donc un culte ouvert, un culte club d'enfants. Donc là aussi, c'est l'occasion, si vous avez des connaissances ou des voisins, de les inviter, puisque le message sera particulièrement adapté aussi. Je crois qu'on a reçu les flyers pour le club d'été, c'est juste, hein. Donc il faudra les sortir, ils sont encore dans le petit meuble. 41 enfants. Voilà, donc déjà 41 enfants inscrits, donc il y a encore de la place. Continuons à inviter les enfants que nous connaissons qui sont susceptibles de pouvoir venir. Des nouvelles des uns et des autres. Didier est parmi nous ce matin. On l'avait partagé, Didier a un souci de santé au niveau de la peau. Donc il devait voir la dermatologue mardi passé, mais le rendez-vous a été annulé. Donc il aura un rendez-vous mardi prochain à l'hôpital. Didier me disait, c'est pas forcément évident d'en parler parce que c'est difficile de donner comme ça des nouvelles précises en 2-3 mots à la sortie du culte. Par contre, ce qui est important, c'est de se soutenir les uns les autres dans la prière devant notre Dieu. Et aussi, c'est aussi une manifestation de l'amour que Dieu met en nous, entre nous. Et c'est important de le vivre. C'est important lorsqu'on passe par la maladie, par des difficultés, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on fait partie d'une famille. Pensons aussi à Lydie qui a été opérée dernièrement, qui se remet bien, mais qui était juste pas assez bien, m'a dit Jean-Paul, pour venir ce matin. Voilà, que tout se passe au mieux. Pensons aussi à Élodie. Vous savez qu'Élodie est enceinte. Elle doit rester en position horizontale, se reposer. C'est prévu qu'Élodie rentre à l'hôpital le 10 avril. Et c'est prévu aussi un accouchement par césarienne au plus tard le 18. Donc voilà, en fonction des circonstances, elle sera opérée plus ou moins tôt. Donc c'est important là aussi de nous soutenir, de prier les uns pour les autres et de vivre cette fraternité aussi entre nous. Je vous rappelle l'urne qui est au fond de la salle concernant le vote pour le processus pasteur. Donc vous pouvez voter, on vous encourage même à le faire, jusqu'à dimanche prochain. La semaine d'après, il y aura le dépouillement. Donc on vous dira, on vous fera connaître la date, enfin, le moment du dépouillement pour que si des gens veulent participer, c'est important que vous puissiez participer. Et puis on demandera aussi probablement à 2 ou 3 personnes de nous aider aussi pour le dépouillement. Voilà, est-ce que j'aurais oublié une annonce ou quelque chose? Oui, Jean-Paul, ouais, viens.
Bonjour. Alors, on dit toujours qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref, c'est pas grave. Parcours baptême, on remet ça. Voilà, on remet ça. Donc, de nouveau, parcours baptême, on va faire ça en avril. Maintenant, on va faire ça avec les dates des personnes qui auront envie de suivre le parcours baptême. Donc, si vous avez envie de vous renseigner sur ce qu'est le baptême, sans aucun engagement du tout, je le rappelle vraiment, c'est important de réfléchir à ce qu'est le baptême. C'est un petit peu baptême pour les nuls. Hein, ça veut dire que si vous avez jamais entendu parler de Dieu, que baptême, qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà, bienvenue, welcome, venez. On va arranger ça, on va trouver une date. Donc voilà, venez vers moi, on mettra ça en place normalement au mois d'avril. Venez vers moi, faites de la pub aussi. Et puis si vous êtes déjà baptisé depuis longtemps et que ça vous dit de refaire une fois, ben welcome aussi. Faites-vous connaître.
Merci. C'est vrai que c'est important, ce parcours baptême. Je vous invite à vous lever. Je vous partage encore 2 versets dans Hébreux 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable, et c'est lui qui peut le faire, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.